J'appuie sur le bouton. Super. Bonjour et bienvenue sur l'Octet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je suis Tristan Nitto et aujourd'hui, je reçois Aurélien Desragnes. Aurélien a une formation d'ingénieur, il a travaillé chez un grand constructeur automobile français qui a un logo qui évoque une barre chocolatée et grâce à qui on a plein de voitures diesel en France. Aurélien est co-créateur de la fresque du numérique, un outil pour bien comprendre l'impact du numérique et il a un parcours de vie très inspirant. Bienvenue Aurélien.
Merci beaucoup, bonjour.
Qui es-tu ? J'ai oublié quelque chose dans ta vie ? j'ai pas raté mon coup ?
Non, c'est ça, la barre chocolatée, effectivement, je l'avais pas vu venir.
Oui, désolé, j'ai pas pu résister.
Mais c'est pas mal, ouais. J'ai été longtemps accro à la marque Orion et au groupe PSA, qui a changé de nom récemment. Et donc, effectivement, je suis de formation ingénieur et j'ai passé 20 ans pour le groupe PSA. Et j'ai récemment changé, il y a 2 ans, j'ai plaqué cette vie-là pour démarrer une nouvelle vie et notamment pour animer des ateliers de sensibilisation à l'écologie, au climat et au numérique. Et donc on va détailler ça, j'imagine, petit à petit.
Exactement. Alors ton métier aujourd'hui, c'est finalement d'expliquer le climat et son rapport avec le numérique. C'est ton job, quoi. On peut dire ça ?
Bah exactement, parce que j'ai testé beaucoup de choses quand j'ai quitté PSA. J'ai eu une grande période d'excitation où j'ai pu réaliser et essayer quoi différents sujets que j'avais sous le coude. Et puis j'ai eu la joie de rencontrer la fresque du climat et de me rendre compte que je pouvais en faire mon activité, dans le sens où à la fois je trouvais ça utile, à la fois je m'en sortais plutôt bien, quoi, donc j'avais des compétences là-dessus, et puis en même temps c'était rémunérateur, quoi, ça me permettait d'en vivre. Donc parmi les différentes choses que j'ai essayées, celle-ci avait quand même beaucoup d'avantages.
Et il y a un moment où tu es arrivé à prendre conscience de la crise climatique, un moment précis, ou ça t'est venu petit à petit ?
Alors ouais, ça effectivement, ça m'est venu petit à petit. En fait, quand j'étais chez PSA, assez vite, parce que c'était mon rêve d'enfant en fait de travailler chez Peugeot, assez vite quand même, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui me manquait, qu'il y a quelque chose qui clochait et que j'étais pas complètement satisfait, j'étais pas épanoui. Et puis en fait, je me suis dit, il faut que je fasse un truc plus écolo à côté. Je vais compléter PSA avec un truc plus écolo. Et par hasard, il y a des collègues qui venaient de la même école d'ingénieurs que moi, je suis centralien, donc on est nombreux, et qui m'ont dit, toi t'es écolo, il y a justement un groupe d'écolos qui se monte, est-ce que tu veux aller les aider ? Et donc j'y suis allé, et on a créé une association qui s'appelle Centrale Énergie. Et on fait des conférences et des rédactions d'articles pour parler de la transition énergétique et notamment de la crise climatique. Et moi je suis arrivé là-dedans sans avoir particulièrement d'informations sur le sujet, et on m'a fait lire quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici à ce moment-là, et c'était en 2006.
Oui, moi aussi. T'avais quel âge à ce moment-là ?
À ce moment-là, j'avais 30 ans, c'était en 2006, voilà. Et il s'est pas du tout passé ce que j'imaginais, parce que j'y allais en me disant, ça va me soulager, je vais être content d'avoir 2 jambes, quoi, une jambe écolo et une jambe industrielle. Et en fait, c'est là que ça m'a bouleversé, vraiment, parce que je disais, tout ce qu'il racontait qui était bouleversifiant. Et puis, j'essayais d'en parler autour de moi chez PSA, et ça faisait marrer, en fait, mes collègues. Je leur faisais des petites conférences de restitution, mais ils captaient que dalle, et puis surtout, ça les faisait marrer, quoi. Du genre, le réchauffement climatique, bien sûr, mais tu vois comme il fait froid aujourd'hui, pourtant ça marche pas du tout. Et donc ça a été dur pendant plusieurs années, mais je suis resté quand même chez PSA en essayant de faire des choses plus écolo. Donc j'ai bossé sur la baisse des émissions de CO2 et sur le véhicule électrique, mais bon, il y a un moment où j'ai dû me rendre à l'évidence que ça suffisait pas.
Ouais, tu sais ce que ton aventure me rappelle, un écrivain et politicien américain qui s'appelait Upton Sinclair, qui disait qu'il est très difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour pas le comprendre. Et effectivement, ouais. Malheureusement, et je le vois à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans l'automobile, l'aviation et aussi dans le numérique, qu'il faut bien le dire, ces gens-là me disent que, mais pas du tout. Enfin, après tout, arrêtez de fermer votre gueule, ça vous recracherait moins de CO2, quoi, en gros. C'est... Je fais, oui, mais bon. C'est vrai que c'est très, très difficile d'être dans cette situation. Et peut-être que c'est, très probablement, c'est un signe de vouloir se protéger, en fait, tu vois, de son intégrité mentale, que de se dire, non, non, ça n'existe pas, je ne veux pas voir, c'est être dans le déni pour pas avoir du mal à aller bosser le matin, quoi.
C'est ça. Moi, j'ai appris à comprendre ça en entrant dans le monde des fresques, dont on parlera un peu, mais il y a un côté émotionnel et ça a été travaillé, ça justement, ça a été creusé, parce que exactement comme tu le dis, effectivement, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, de manière naturelle, en fait, le cerveau humain commence par nier. C'est, en fait, c'est normal. Et donc, faut l'accepter quand tu essayes de convaincre quelqu'un. Tu sais que il va commencer par là, donc faut pas s'énerver, faut pas se braquer, c'est naturel, en fait.
Oui, oui.
Et ça prend du temps pour passer aux étapes suivantes, qui sont, après, t'as une phase de... C'est comme la courbe du deuil, en fait. Donc, t'as une phase d'épuisement, quoi, en fait, où tu déprimes, quoi. Une fois que tu acceptes que c'était vrai, tu te dis, oh, c'est mort, c'est foutu. Et puis ensuite, petit à petit, tu rebondis, quoi. Tu finis par accepter et par te mobiliser et essayer d'agir, quoi. Et en fait, c'est naturel et faut pas avoir peur de ça, c'est normal, quoi.
Ouais, c'est la psychiatre suisso-américaine Elisabeth Kübler-Ross qui a décrit la courbe du deuil, qui en a fait un modèle, donc avec d'abord, première étape, le déni, quoi. Mais non, pas du tout. Alors, en fait, elle l'a étudié sur des patients en fin de vie, quoi. Alors, on dit, bah, vous avez un cancer, vous en avez pour quelques semaines. Mmh. Et là, les gens font, mais pas du tout, je vais très bien, je ne suis pas malade, vous vous êtes trompé dans les examens. Après, c'est la colère, quoi. Mais non, après, c'est le marchandage. Oui, mais bon, si j'arrête de fumer, mon cancer, il va s'arrêter. Bah écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle, quoi. Et puis la dépression, c'est-à-dire face à tout ça, on est écrasé. Et après, l'acceptation. Et là, on en sort. Alors bon, forcément, si c'est le cancer, c'est pas... Au moins, t'es serein psychologiquement. Ça veut pas dire que t'es en bonne santé non plus, mais... et ce modèle-là, il s'applique à plein de choses. Et moi, je le vois. Enfin, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet. Je les mettrai en bas du podcast, hein, pour ceux qui veulent suivre. Mais ouais, c'est... Il y a vraiment un process de deuil quand on comprend bien... la problématique du climat, parce que il faut faire le deuil de ses rêves d'enfant. Il y a quelques semaines, on a eu cette polémique autour des avions et des rêves d'enfant. C'est marrant, parce que t'as dit rêve d'enfant quand t'as parlé de ta volonté de travailler chez PSA. Je comprends très bien. Il y a plein de gamins qui voulaient faire des automobiles ou faire des avions, ou faire voler des avions. Et oui, ça fait partie de ces rêves qui ont été inculqués à un moment, mais pour lesquels il va falloir faire le deuil.
Ouais, tout à fait.
Et alors donc, t'as changé des choses dans ta vie. Qu'est-ce que tu as
changé? Alors, si je continue l'histoire, en fait, petit à petit, voilà, j'ai essayé de, soit de quitter PSA, soit de changer les choses de l'intérieur. Mais je pense que j'étais pas prêt à vivre une aventure en dehors de... Tu vois, j'avais un emploi salarié et j'avais connu que ça toute ma vie. Et donc, j'étais pas assez mature pour me lancer vraiment à l'extérieur. Voilà, mais malgré tout, mon envie de changement grandissait. Et il y a eu un événement déclencheur, en fait, fin 2019. J'ai assisté à une conférence organisée par Central Energy d'ailleurs, mais qui n'était pas organisée par moi, j'assistais quand même, où un des intervenants c'était Philippe Biwix.
Oui.
Donc je sais pas si...
L'âge des low-tech en particulier.
Ouais, c'est ça, donc une des lectures que je recommanderais d'ailleurs tout à l'heure. Et donc le thème de la conférence c'était sur la raréfaction des ressources au-delà des énergies fossiles. Il y a les énergies fossiles mais pas que. Et du coup, c'était assez accablant en fait. Moi, ça faisait plusieurs années que j'étais plus déprimé vraiment, quoi, parce que j'essayais de faire des trucs, mais lentement, quoi. Voilà, je pense que j'étais du genre lent. Mais là, bon, c'était quand même assez sévère, quoi, parce que le côté énergie, j'y avais déjà beaucoup réfléchi, mais le côté matière. Et le fait que toute notre extraction de matière est aussi limitée, qu'on ne peut pas la faire indéfiniment, ça, j'y avais jamais réfléchi, donc ça m'a un peu choqué. Mais surtout, il y a eu une question à la fin, un auditeur qui lui a dit, mais alors quelle solution on a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, c'était vachement plein d'espoir et en gros, il espérait que Philippe Biwix ait une réponse toute faite, rassurante. Pour dire, vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Bah écoutez, on va passer au nucléaire, à la bagnole électrique, et on va recycler un peu plus, et hop, on va pouvoir continuer comme avant. Et en fait, c'est là, il l'a pas eu comme réponse, celle-là, non?
Non, c'est ça. Moi, jusqu'à ce jour-là, je pense que j'étais beaucoup dans la première étape de réaction qui est assez typique des ingénieurs, qui est de croire en la technique, en fait. Et de croire que, en cogitant correctement, on va trouver des solutions. Bon, ça n'empêche pas que, oui, on va peut-être trouver des idées et il faut. Mais il a pas eu du tout ce type de réponse. Il a dit, non, effectivement, non, il n'y a pas de solution. Et moi, en tout cas, j'ai aucune solution miracle à vous préconiser. Le seul truc à faire, c'est résister. Et ça m'a choqué parce que c'était ça fait une référence à la résistance de la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'était vraiment ça. C'était un engagement fort à se mobiliser sans être du tout certain du résultat. Tu vois, c'était hyper profond et ouais. Ça m'a glacé. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je change quelque chose. Il faut que j'essaye de faire quelque chose. Et donc, j'y vais. Et donc, de ce jour-là, j'ai décidé de quitter PSA, quoi. Et puis après, les choses se sont enchaînées et ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Mais c'est ça qui m'a lancé, je pense, quand je réfléchis à ce qui m'a déclenché, quoi.
Ouais, il faut du courage dans ces cas-là, il faut de la persévérance, et c'est difficile de quitter un CDI chez l'employeur de ses rêves d'enfant, mais pour affronter des choses qui donnent du sens à ta vie, quoi, parce que finalement, t'aurais pu rester au chaud puis devenir complètement schizo, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bravo d'avoir osé le faire.
Bah, merci.
Alors, à titre personnel, vite fait, parce que le temps passe vite, mais tu te considères comme écolo, tu tries tes déchets, tu manges du quinoa, tout ça.
C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mangé à midi.
Je le savais.
faut dire, t'étais avec nous, c'est pour ça. Non,
non, pas vrai. Non, j'y étais pas.
Mais oui, mon mode de vie personnel, c'est aussi un de mes objectifs dans mon projet. Ça a été de me mettre en accord. C'est une question d'alignement, hein. C'est un mot assez à la mode, mais je crois que c'est ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que je choisis un métier qui a du sens pour moi et je choisis un mode de vie qui a du sens pour moi. Et du coup, mon mode de vie, et j'entraîne ma famille avec moi parce qu'on est avec ma femme et on a 3 enfants. Et donc, on était déjà quand même pas mal écolo, mais plutôt du genre à acheter les produits bio du supermarché. Et donc l'étape d'après, c'est plutôt de plus acheter au supermarché, en fait, et d'acheter des produits bio peut-être, mais effectivement de faire nous-mêmes le plus possible, d'utiliser nos mains le plus possible, beaucoup, ouais. et de pas sous-traiter à d'autres. Enfin, pour moi, ça touche vraiment ça, quoi. Donc plus de produits industriels, que des produits de base, et si possible bio, et si possible et quasiment tous en vrac, et on fait nous-mêmes, ouais. Et donc ça change pas mal de choses, en fait, dans le mode de vie. Plus de voiture, quand on veut se déplacer, on essaie d'être autonome le plus possible. Donc voilà, faire le plus possible par nous-mêmes sur tous les sujets.
Bon, alors, t'as un vélo ?
Oui, j'ai un vélo. Après, soit j'habite à Paris, et de toute façon, ça faisait plein d'années que j'avais pas de voiture, parce que c'est trop pas pratique, quoi, tout simplement, à Paris.
Ouais, c'est clair, ouais.
Et puis c'est super pratique d'avoir les transports en commun. Mais ici, à la campagne, oui, on a un vélo. Bon, alors, j'emprunte une voiture aussi, bien sûr, de temps en temps, hein, mais je ne possède pas de voiture, quoi. Je loue quand j'ai besoin ou j'emprunte à droite à gauche, quoi.
Excellent.
Et donc j'ai fait mon bilan carbone personnel récemment avec un outil qui s'appelle MyCO2, qui a été créé par Carbon 4. Et donc je vous invite à le faire. Alors il y a plusieurs calculateurs carbone qui sont disponibles en ligne. Il y en a un qui est fait par l'ADEME.
Oui, nos gestes climat.
Ouais, exactement, nos gestes climat. Mais je vais donner mon score parce que je trouve ça cool qu'il y ait une forme de challenge et que au lieu de se battre pour avoir la bagnole la plus grosse, on se batte pour avoir l'empreinte la plus faible. C'est quand même plus utile.
Vas-y, même pas mal, dis-moi.
Et donc, moi, j'ai fait un score de 3,77 tonnes d'équivalent CO2 à l'année. Voilà. Et c'est notre mode de vie actuel avec ma famille et qui a rien d'amish. Je dis souvent, j'ai rien contre les amish, mais vraiment rien. Mais je me considère pas du tout amish, mais alors pas du tout, quoi. C'est juste qu'on fait attention. D'ailleurs, on a un train de vie beaucoup plus faible qu'avant, hein, en plus de ça, donc... Tout ça a une logique économique aussi derrière, quoi. Donc ça tourne sans problème, quoi.
Bon, ouais, c'est super. Ça, c'est un sujet que j'aborde souvent. J'encourage les gens à faire leur bilan carbone et puis on en discute ensuite. Et déjà, quand c'est le tien, tu vois, et qu'on te dit comment c'est réparti, je recommande nos gestes climat par habitude, hein, parce que je le connais. J'ai d'ailleurs interviewé le développeur du truc sur ce podcast. Et c'est une formidable façon de commencer la conversation. réflexion sur le sujet, en fait. Parce qu'il commence à se projeter, ah oui, c'est vrai, bon, j'ai tendance à prendre trop souvent ma bagnole, je pourrais prendre le vélo, ah ouais, c'est là que ça pêche, il faut que j'arrête le bœuf, enfin bon, il y a des trucs comme ça. Mais le temps passe, c'est horrible, et donc il faut qu'on avance. Qu'est-ce que tu fais à titre professionnel? Parce que c'est quand même ça, la France veut savoir, raconte-nous.
Eh ben, écoute, quand j'ai quitté PSA, donc j'avais prévu de devenir développeur web, j'essaye de faire court, hein, mais il y a un lien dans tout ce que je raconte.
Vas-y, vas-y.
J'avais prévu de devenir développeur web, ce qui n'était pas mon métier, mais je suis un peu geek depuis toujours, et donc je savais que j'allais apprendre vite ça. Et donc effectivement, je l'ai appris vite, et je suis devenu développeur web. À côté de ça, j'avais prévu des trucs cool, mais non rémunérateurs, comme un Ripper Café, que je fais toujours, comme apprendre à cultiver des fruits et des légumes, que je fais toujours et qui est vraiment extraordinaire. Mais voilà, ça gagne pas d'argent. Et par hasard, j'ai quitté PSA, je suis allé voir un copain de Central Energy, encore Central Energy, qui s'appelle Cédric Ringenbach. Cédric Ringenbach, il a été directeur du Shift Project, le think tank créé par Jean Covici. Et depuis quelques années, il avait quitté le Shift pour créer un atelier ludique sur le dérèglement climatique qui s'appelle la fresque du climat. Il nous en avait parlé à Central Energy, mais j'avais jamais essayé. Et donc, quand j'ai quitté PSA, je suis allé manger avec lui. Il m'a dit, bah, quand même, tu dois essayer parce que je sens que ça va te plaire, quoi. Et donc, effectivement, j'ai participé. Et j'ai été bluffé, quoi. J'ai carrément adoré. Donc à tous les auditeurs qui l'auraient pas encore essayé, je recommande cet atelier.
Et moi aussi je le recommande, je l'ai fait, j'ai adoré. Voilà. Malheureusement c'était en distanciel, donc c'est un petit peu moins bien qu'en présentiel je pense, mais j'ai adoré la fresque du climat. C'est formidable façon de voir comment toutes les problématiques, ouais, qui sont économiques, chimiques, liées à l'atmosphère, liées au sol, liées au cycle de l'eau, enfin tout ça c'est des tas de concepts, et on arrive à les organiser et à voir un début, une fin et comment les choses s'enchaînent. C'est extraordinaire de pédagogie, ouais, c'est formidable.
Et donc ça fonctionne en équipe, on forme des équipes de 6 ou 7 personnes mettons, et il y a un animateur qui leur remet des cartes petit à petit, et sur ces cartes il y a des images et il y a des textes qui permettent, en discutant entre les participants, de trouver les liens entre les cartes. Et donc c'est comme un puzzle ou comme une enquête, et donc on fait ça en discutant entre nous, et petit à petit ça marche, on trouve comment organiser toutes les cartes et ça forme une fresque, d'où le nom. Et ensuite ce qui est top, c'est qu'on discute du coup de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on en a pensé, des bons plans, des idées qu'on a, on débat en fait, et c'est très très riche, très très riche. Et moi ça m'a marqué, alors un peu sur le fond, mais vous avez compris que j'avais déjà pas mal d'infos, donc un peu sur le fond, j'ai quand même appris des trucs, mais moins. Par contre, là, ce qui m'a incroyablement marqué, c'est sur la méthode, en fait, la méthode d'intelligence collective. Alors que j'étais très peu dans cet esprit-là en quittant PSA. Bon, je pense que j'étais déjà quelqu'un de cool et de collaboratif, mais j'avais jamais appris, en fait. J'avais jamais été éduqué comme ça. J'étais dans une grosse boîte où, ok, on bosse en équipe, mais en fait, on est en compétition. Alors que je pense que fondamentalement, moi, je suis très compatible avec l'intelligence collective et que plein de monde l'est. Et ça, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et tous les projets, du coup, que j'avais en quittant PSA, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui étaient individuels. Par exemple, je voulais travailler sur un système de stockage d'énergie, mais un peu en mode solo dans mon garage. Et ça, j'ai réalisé que si je voulais avoir de l'impact, si je voulais obtenir des résultats, c'était pas la bonne méthode. Et que la bonne méthode, c'était de travailler en collectif. Et qu'il y avait des façons de travailler collectivement, et la fresque en était la preuve. Et donc, ça m'a énormément plu, ça. Et du coup, je me suis investi dans la fresque du climat. Je suis devenu animateur. Et j'ai vu, comme je disais tout à l'heure, que ça pouvait être rémunérateur. Ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. En plus d'être un formidable outil, il se trouve que ça peut être une façon de gagner sa vie. Donc, je suis allé à fond là-dedans. Et la suite de l'histoire, c'est que je me suis dit, quand même, t'as un sujet climat et en même temps tu fais des sites web. Il faut que tu trouves à marier les deux. Faut pas reproduire la dissonance cognitive. Et donc, je me suis formé au sujet du numérique durable à cette occasion, quoi. Donc, en fin 2019. Et en faisant des fresques, j'avais déjà rencontré Yvan Mouneux, donc, qui était un copain animateur de fresques. Et il se trouve que, en me documentant sur le numérique durable, j'ai constaté qu'on avait aussi ce point commun ensemble, parce qu'on s'est croisés dans des conférences et des soirées sur le sujet. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas reprendre la pédagogie de la fresque du climat? qui marche très bien, mais cette fois pour parler du sujet du numérique durable. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure de la fresque du numérique, qui est donc un autre atelier qui se fait en présentiel avec des cartes aussi, hein, mais qui se fait aussi en distanciel, comme la fresque du climat. Donc fresque du numérique, ça veut pas dire que c'est une fresque en numérique, sous-entendu en ligne. C'est possible en ligne, mais c'est aussi possible en présentiel, et la fresque du climat, c'est possible en ligne et en présentiel. Et donc, pour finir, aujourd'hui, j'ai arrêté le développement de site web parce que j'ai plus besoin, j'ai plus le temps, quoi, surtout, et je suis pris à 100% sur la fresque du climat et surtout la fresque du numérique. Et donc, je suis content.
C'est génial. Écoute, moi, pour avoir fait les deux fresques, aussi bien la fresque du climat d'abord et ensuite la fresque du numérique, oui, c'est vraiment une version spécialisée sur le même modèle pédagogique, mais avec un sujet qui est les ressources abiotiques. Enfin, bon, voilà, comprendre toute la problématique de l'électricité, du recyclage et tout. Enfin, bon, c'est assez formidable.
Merci.
Et je pense que tout informaticien ou même toute personne utilisant le numérique devrait suivre ça. Ça se fait en 3h30 et ça permet de plonger dans ce sujet qui est quand même très complexe, et au bout de 3h30 avoir compris bien plus de choses que ce avec quoi on est arrivé. Alors, c'est qui le public concerné par cette fresque du numérique pour toi ?
Exactement comme tu l'as dit, on pense que ça va être utile à toutes les personnes utilisatrices du numérique déjà. Donc en fait, quand on a dit ça, ça couvre quand même les deux tiers de l'humanité, quoi. Donc ça compte large. Et ça intéresse aussi après des personnes spécialisées sur le sujet. Mais en tout cas, c'est pas du tout un prérequis. C'est-à-dire que tu peux participer en tant que juste utilisateur, tu peux participer en tant que spécialiste déjà. Spécialiste, j'entends déjà informaticien, comme tu l'as dit, ou entreprise du numérique, enfin des gens dont c'est vraiment le cœur d'activité. Eux, ils vont peut-être en faire une lecture un peu différente de quelqu'un qui est juste utilisateur. Mais les deux types de publics vont trouver des informations, dans le sens ils vont comprendre les impacts environnementaux du numérique et ils vont savoir où agir, ils vont savoir comment agir pour améliorer ça. C'est ça aussi, enfin on fait pas la fresque du climat ou la fresque du numérique ou tout ce genre d'atelier, c'est pas juste pour le plaisir d'apprendre des choses, quoi. C'est parce que ça serait déprimant, hein. Et il se trouve que ce qui permet de sortir de la déprime, c'est d'agir. Et coup de chance, on peut agir, on va y revenir après, mais on peut faire plein de trucs, on peut le faire, et il se trouve qu'on doit le faire collectivement pour résoudre les problèmes, donc faut y aller. Et dans ces ateliers-là, on finit les ateliers comme ça, en évoquant tout ce qu'on peut faire, donc les gens ressortent pas à poil et déprimés, ils ressortent motivés au contraire et boostés pour faire des trucs, quoi.
Ouais. Et en plus, il y a quelque chose qui est important, c'est cette prise de conscience, elle se fait en groupe. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul face à un document, on est avec des autres et on voit que les autres eux aussi, parfois ils passent un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Faut reconnaître, t'es là, ah oui, ah merde, en fait ça va être très compliqué, oui, mais voilà, on est ensemble et on parle de, enfin, et on voit que les autres aussi comprennent, et on voit aussi que, enfin, on évoque comment, ce qu'on pourrait faire différemment, et donc ça nous met déjà en action. Alors, qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi dans cette situation ?
Pour moi, globalement, face à tous les problèmes climatiques qu'on a et les problèmes environnementaux plus globalement, il y a un point clé, c'est que si je me bouge, c'est que je suis convaincu qu'on peut améliorer la situation. C'est-à-dire que il y a un chemin pour améliorer les choses et que collectivement, on ait un mode de vie qui soit supportable par notre environnement. Voilà, qui a un mode de vie viable, c'est-à-dire qui vraiment au sens qu'il soit durable. Voilà, j'évite d'utiliser le mot durable parce que c'est vrai que c'est parfois un peu galvaudé, mais l'enjeu c'est ça, c'est de trouver une manière de vivre équilibrée qui mette pas en péril les générations futures, hein, voilà, tout simplement. Et moi je suis convaincu que c'est faisable, sinon on saute tout de suite par la fenêtre. Et au contraire, même je pense que c'est excitant, quoi. Et justement, oui, en tant qu'ingénieur, j'ai une petite anecdote là-dessus. Moi je trouve ça hyper excitant d'avoir des trucs à inventer, hein. On aime tous inventer des trucs, et putain, en ce moment, pardon pour la grossièreté, mais justement, en ce moment, il y a plein de trucs à inventer.
Non, mais on a le droit de dire des gros mots ici.
C'est la renaissance, quoi. Il y a plein de trucs à sortir, à créer, et je trouve ça génial. Et la petite anecdote, c'est que à une des conférences, où on était avec Yvain d'ailleurs, une conférence sur le numérique, il y avait Bella Lotto et Céline Lescope et Guillaume Pitron. Et bah, ils exposaient un peu ce qu'on raconte dans la fresque, hein, donc l'impact environnemental du numérique est trop élevé et que faut essayer de faire plus simple. Enfin bon, sans aller plus loin dans le détail. Et il y a quelqu'un qui a posé la question à un jeune, hein, il a levé la main, il a dit bah moi je suis ingénieur et je travaille dans la conception de microprocesseurs et je trouve ça hyper déprimant ce que vous dites. Vous êtes en train de dire en gros que je vais être au chômage. Je trouve ça embêtant quoi. Et je crois que c'est Céline Lescope qui lui a répondu quelque chose d'énorme mais qui correspond tout à fait à ce que je pense, qui lui a dit mais non, vous avez pas compris, c'est au contraire, on est en train de vous dire que il faut faire la même chose avec moins de ressources, avec plus de contraintes. On est en train de vous dire que il faut que vous trouviez comment allumer la lampe avec juste trois bouts de ficelle. On est en train de vous dire qu'il faut faire marcher votre matière grise en fait. On est en train de vous dire qu'il faut innover, qu'il faut réfléchir à des trucs, sauf que c'est pas open bar sur l'énergie et les matières. C'est tout ce qu'on est en train de vous dire. Et ça, c'est un job d'ingénieur. Et là, le gars, voilà, il a dit ah ouais, tiens, c'est vrai, vu comme ça, c'est un nouveau challenge, y compris technologique, tu vois, sans aller dans le. Moi, je suis sorti du. La technologie va nous sauver, je le crois pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de trucs à inventer pour nous sortir de l'ornière, clairement. Donc, c'est hyper excitant.
Je suis sûr que je te pique le truc, mais moi, c'est un truc qui m'a enthousiasmé quand j'ai lu L'âge des low-tech de Philippe Biwix. Justement, c'est. Putain, c'est simple. Moi aussi, tu vois, je dis des gros mots. C'est simple, c'est différent, c'est pas ce que je pensais. Mais en fait, c'est excitant d'être ingénieux.
Exactement.
Ingénieux, tu vois, comme l'ingéniosité africaine des mecs qui te réparent des mobilettes.
Exactement, la débrouille. Et moi, je trouve ça génial.
Et qu'il y a un potentiel de créativité autour de ça. Il y a une élégance technique.
Exactement.
Qui est vraiment kiffante.
De toute façon, il y a un truc qui se dit pour les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui te disent qu'ils sont beaucoup plus créatifs et productifs quand ils ont des contraintes.
Exactement.
Parce que c'est là que ça t'oblige à puiser et à chercher des nouvelles idées. Quand t'es dans l'opulence, c'est pas drôle en fait. Tu sais plus quoi faire quoi. Alors que la débrouille, et moi il y a un personnage que j'adore, alors c'est de ma génération, mais je parais que toi aussi, c'est MacGyver.
Oui.
Et ça m'a toujours fait énormément kiffer ça. Et c'est exactement ça en fait sur lequel on doit travailler. Je trouve ça génial. De me dire qu'il faut qu'on devienne des MacGyver, je trouve ça génial. C'est juste excitant quoi.
Super. Alors justement, quelle lecture tu recommandes à nos auditeurs ?
Eh ben, bim, tu l'as dit, mais c'est tout à fait ça. L'âge des low-tech de Philippe Biwix, clairement, ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses et c'est vraiment intéressant. Ensuite, le livre de Guillaume Pitron qui s'appelle La guerre des métaux rares.
Ouais.
Et qui permet de comprendre la partie matière. Alors, Philippe Biwix en parle déjà, mais la partie matière qui est donc un des autres problèmes qu'on a à côté des énergies fossiles. Après, je recommande bien sûr toutes les lectures de Jean-Marc Jancovici. Il a fait des livres lui-même ou avec Alain Grandjean, mais sinon il a un blog qui est très très fourni et il est très très productif sur LinkedIn où il a donné tout un tas de cours qui sont enregistrés et disponibles sur YouTube, donc il est admirable. C'est vraiment, je le connais pas personnellement, mais je trouve admirable quoi.
Je recommande le cours à l'école des mines.
Ouais, c'est ça.
Les cours à l'école des mines, 20 heures. Alors, ça m'a pris 30 heures de le faire parce que j'ai l'âge que j'ai. Et que j'ai pas fait une bonne prépa comme les mecs de l'école des mines, mais c'est passionnant quoi. C'est vraiment extraordinaire. Je mettrai un lien aussi là-dessus.
Et j'ai lu L'entraide, l'autre loi de la jungle de Pablo Servigne, très bien aussi, qui est dans ma pile là d'ailleurs. Très intéressant parce que là aussi c'est encore un domaine où il y a des trucs à comprendre énormes et c'est très très intéressant de comprendre la dynamique de collaboration qui est très productive.
Oui. Ouais, ok.
Et dans le même genre de nouveaux modèles, il y a des trucs, on parlait de technologie à mettre en place, mais il y a plein de trucs sur notre fonctionnement collectif à mettre en place, donc la coopération. Dans le même registre, il y a un livre qui s'appelle L'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy. Pareil, qui parle un peu de ça, de la manière dont on peut fonctionner collectivement, y compris au niveau industriel et technique, d'une manière compatible avec les limites de notre planète. Et tout ça, c'est vraiment des lectures enrichissantes. Et en fait, il y a encore plein de trucs à inventer. Comprendre le monde vivant qui nous entoure, c'est juste... il y a encore juste plein de boulot à faire, alors que le monde vivant qui nous entoure, c'est juste une machine extrêmement bien faite pour transformer les végétaux, par exemple, pour transformer l'énergie du soleil en matière organique. C'est extraordinaire et il y a beaucoup de choses à comprendre sur comment faire pousser sans intrants chimiques et en faisant tourner les cultures, en évitant de labourer. Enfin, même sur l'agriculture, il y a l'agronomie, il y a plein de choses à comprendre et à travailler. Je trouve ça hyper excitant, en fait. Hyper excitant.
Voilà. Alors, à tous les ingénieurs qui font des bullshit jobs, qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'opportunités pour mettre leur intelligence au service de choses absolument formidables. Et en conclusion, est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs?
Eh ben ouais, et moi je veux reproduire le message de Philippe Wix qui est résister.
Mais c'est résister quoi? Résister à la publicité, résister à la pression des pairs pour aller plus vite vers le mur de la consommation.
Ouais, ben oui, parce que résister, ça veut dire se bouger, ça veut dire ne pas se laisser tomber dans le confort du salariat. Enfin, j'ai rien contre le salariat, mais moi c'est ça qui m'a parlé. C'est prendre le taureau par les cornes, se bouger et agir. Il y a plein de choses à faire et faut pas se donner de fausses excuses du genre je peux pas, j'ai 3 enfants, je peux pas, j'ai peur, je vais pas trouver de boulot. Moi j'y suis arrivé, alors ok, j'avais peut-être des conditions favorables et plus faciles, mais tout le monde peut le faire, c'est juste une question de volonté. Alors ça fait très américain, ouais, tout le monde peut y arriver si tu le veux vraiment, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais c'est vrai, on peut faire plein de choses et il faut faire plein de choses.
Excellent. Écoute, c'était génial, plein d'enthousiasme et de résistance. Merci.
Bah, tant mieux, merci.
Merci beaucoup Aurélien. Donc on va mettre en dessous du podcast tout ce qu'il faut comme lien vers la fresque du climat, la fresque du numérique, la bibliographie, etc. Merci pour ton temps et bonne fin de journée à toi.
Merci à tout le monde. Salut.
Salut.